Bonjour, c'est Axel Le Tarlet. Vous allez écouter C'est dans l'air, l'intégrale. C'est un podcast de France Télévisions. C'est tout de suite.
Bonsoir à toutes et à tous. 400 euros de plus par mois et une prime exceptionnelle de 1900 euros. Les éboueurs ont déposé à leur tour un préavis de grève et menacent de ne plus ramasser les poubelles pendant les Jeux Olympiques s'ils n'obtiennent pas satisfaction. Idem à la SNCF Île-de-France qui, le même jour, mercredi dernier, a également déposé un préavis de grève pour obtenir de meilleures compensations pour les Jeux Olympiques, et l'exécutif se retrouve coincé face à ces menaces de gâcher la fête, même si certaines revendications peuvent paraître éloignées du sujet, comme cet accord signé à la SNCF, accord de cessation anticipée d'activité qui permet aux cheminots de partir jusqu'à 18 mois avant l'âge légal. Un accord d'ailleurs condamné par Bruno Le Maire, qui a dénoncé un dysfonctionnement et qui en prime a convoqué le patron de la SNCF. C'est le sujet de cette émission de C'est dans l'air, intitulée ce soir, SNCF, éboueur, le chantage au JO. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Étienne Gérard. Vous êtes rédacteur en chef société à l'Express. Bonjour. À la une de l'Express cette semaine, un dossier spécial sur les délires du management. Fanny Guinochet, éditorialiste pour France Info et La Tribune, spécialiste des questions économiques et sociales. Votre édito, recul de l'âge de la retraite, la SNCF achète la paix sociale. Sophie Fay, journaliste au Monde, spécialiste des questions de transport et de mobilité. Votre dernier article, l'exécutif embarrassé par l'accord sur les retraites signé à la SNCF. Et Richard Verly, vous êtes journaliste suisse, vous êtes correspondant France-Europe pour le média suisse Blick.fr. Je cite votre livre, Le bal des illusions, ce que la France croit, ce que le monde voit. C'est coécrit avec François d'Alençon et c'est publié chez Grasset. Merci de participer à cette émission en direct. Étienne Girard, voilà, j'ai imprimé la lettre qu'a reçue Anne Hidalgo, hein, et c'est donc l'objet qui émane des agents de la propreté de Paris. Et donc, il réclame dans ce courrier une augmentation de salaire de 400 euros par mois et une prime exceptionnelle de 1900 euros pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. D'ailleurs, ils assument de s'appuyer sur les JO. Je cite le secrétaire général de la CGT de Paris. On n'a pas vocation à gâcher les JO, dit-il, mais c'est un levier de pression.
Bien sûr. C'est du chantage factuellement, mais le mot a une connotation négative. Eux préfèrent parler de rapport de force syndical. Et c'est vrai que c'est pas une spécificité française. On voit essaimer à l'approche des JO des revendications sectorielles dans tous les corps de métier qui peuvent gâcher la fête. Ils profitent, c'est un fait, de pouvoir gâcher la fête. Ce sont les secteurs des transports, la RATP, la SNCF, les secteurs de l'hygiène, ici, les éboueurs, pour obtenir des avantages sociaux. Ils auraient tort de se priver, c'est le monde du travail, c'est le dialogue social, c'est le rapport de force. Ça s'est toujours fait à l'abord des JO, hein, si on regarde un peu, juste avant les JO de Rio, il y a une menace énorme de grève. Ça a été aussi le cas juste avant les JO de Londres. Les grévistes avaient obtenu gain de cause. Alors, c'était pas le cas avant les JO de Pékin, mais parce que la Chine n'est pas exactement un pays où le dialogue social fonctionne. Et n'ayons pas la mémoire courte, ça avait été aussi le cas juste avant la Coupe du Monde de football de 1998. On l'oublie souvent. Le 1er juin, une grève est lancée par les pilotes d'avion qui ont gain de cause quelques heures avant le début de la Coupe du Monde de football, ce qui montre bien que cette forme de chantage ou ce rapport de force syndicale, bah, ça marche.
Mais Sophie Fay, on a l'impression que même si on signe un accord, on n'est pas à l'abri de syndicats qui reviennent à la charge, puisque mercredi dernier, c'est les cheminots Île-de-France qui disent « on a obtenu quelque chose, mais finalement, on veut obtenir plus que ce qu'on a déjà obtenu. »
Il faut voir qu'il y a beaucoup
Pardonnez-moi, ouais. Je cite Raymond Soubi, qui est un expert des relations sociales, qui parle, il dit, pour un syndicaliste, les JO sont une arme de blocage atomique.
Ben oui, en fait, c'était prévisible, ces JO. On savait qu'il y avait les JO, on savait qu'avant, les professions qui sont exposées, qui sont indispensables pour bien faire fonctionner le système, aurait des revendications. On savait que ce serait le cas dans les transports, puisque c'est la première fois que les transports, que les Jeux Olympiques ont cette promesse d'amener tous les spectateurs en transport en commun sur les lieux de fête. Donc on sait que, ou les lieux d'épreuve. Donc on sait que c'est stratégique. Les syndicats le savent aussi, et donc ils l'utilisent comme un levier. Ce qui complique la situation, c'est que quand on a gagné les JO, on pensait qu'on serait dans un moment où il y avait peu d'inflation, où tout était prévisible, où il n'y avait pas de pénurie d'effectifs, pas de pénurie de conducteurs. Entre les deux sont passés le Covid et la guerre en Ukraine. Et qu'est-ce qui se passe? On a de l'inflation. Sur les salaires plutôt moyens ou faibles, elle est beaucoup plus forte puisque l'inflation alimentaire grignote une part proportionnellement plus importante du budget. Et donc on a des sous-effectifs. Donc tout converge pour donner non seulement cet effet de levier des JO, mais l'effet de levier de vous avez besoin de tout le monde, vous n'avez pas beaucoup de réserves parce que vous n'avez pas assez recruté pendant le Covid ou vous n'avez pas forcément augmenté suffisamment pour couvrir toute l'inflation.
Fanny Guinochet, est-ce que ça ne peut pas nourrir un ressentiment chez d'autres salariés qui seront sursollicités pendant ces Jeux Olympiques, je pense dans les secteurs du tourisme ou du commerce, et qui ne seraient pas en mesure, eux, d'arracher les mêmes primes.
Clairement, ça ouvre la boîte de Pandore. Et en fait, je me souviens qu'un des premiers une des premières institutions qui a proposé des primes, c'était l'APHP, les hôpitaux de Paris, qui effectivement à l'automne dernier, commencé à négocier et avaient anticipé donc un surcroît d'activité ou en tout cas une organisation différente. Le fait de demander à certains infirmiers, personnels qui travaillent dans les hôpitaux de Paris, où on sait que quand même les conditions sont difficiles, de ne pas prendre leur congé, d'organiser l'année, d'avoir des primes. Et je me souviens qu'à ce moment-là, un certain nombre de dirigeants d'entreprises, comme la SNCF, ont dit, oh là là, ils mettent la barre haut à la PHP, comment nous, on va faire pour suivre les hôpitaux de Paris, puisque comment on va faire pour suivre si eux, ils donnent X euros, centaines d'euros de primes, nous, derrière, c'est sûr qu'on va avoir la demande. Là, c'est un peu pareil. Là, effectivement, vous avez un phénomène, et c'est humain de dire, puisque eux ils ont obtenu, pourquoi nous on n'obtiendra pas alors qu'on va être aussi sursollicité à l'intérieur de la fonction publique, ne serait-ce que ça, il y a des primes qui sont prévues, donc il y a eu des réunions avec les syndicats, mais à partir du moment par exemple où les policiers ont obtenu jusqu'à 1900 euros de primes pour ceux qui seront pleinement mobilisés pour les JO, vous avez eu d'autres professions, les douaniers qui ont dit mais attendez, nous aussi c'est hyper important, à ce moment-là il va y avoir beaucoup plus de travail, on va avoir beaucoup plus de contrôle à faire, donc nous aussi on va demander. C'est un peu normal. Après, la difficulté, c'est de trouver les bons curseurs, sachant que certains, il y a un dialogue social qui marche plus ou moins bien, il y en a d'autres, c'est plutôt au coup de force dans certaines entreprises, et puis effectivement, vous avez les services publics, puis vous avez des entreprises privées qui peuvent aussi avoir un petit peu plus de mal à accéder à ces demandes. Les leviers ne sont pas les mêmes, mais clairement, ça donne pas la surenchère, mais c'est vrai qu'on se dit, pourquoi si eux ont obtenu, pourquoi nous, on n'obtiendrait pas? Et ça ouvre le bal.
Richard Verli, votre regard de Suisse sur ce dialogue social à la française, on va dire. On commence par envoyer une lettre de préavis de grève et après, on négocie.
Oui, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que disait Étienne. C'est-à-dire que moi, je trouve quand même un peu préoccupant, si on prend un recul, disons, au moins européen, cette idée qu'au fond, ce type de préavis, ce type de demande, ce serait le dialogue social. Non, ce n'est pas le dialogue social. C'est ni plus ni moins l'épreuve de force. Parce que le dialogue social, moi, j'avais compris, et c'est une part du problème, que ces JO, en tout cas, c'est comme ça qu'ils avaient été présentés par les autorités françaises, devaient être inclusifs et devaient être quasiment des JO modèles du point de vue à la fois social, urbain, on pense notamment à Saint-Denis, et écologique.
Emmanuel Macron avait appelé à une trêve sociale.
Tout à fait.
On s'est raté.
Alors, dans ce cas, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi les autorités n'ont pas anticipé, alors il semble que certaines corporations l'ont fait, comme les hôpitaux, pourquoi effectivement, un dialogue ne s'est pas mis en place en amont. J'ai lu que Bernard Thibault, si je ne me trompe pas, l'ancien patron de la CGT, fait partie du comité d'organisation. Alors, à quoi ça sert? On peut quand même pas s'empêcher de se poser la question. La promesse de jeux sociaux a été faite. Un ancien leader de la CGT est dans le comité d'organisation. On connaît la date des JO depuis longtemps et néanmoins, ce type de rapport de force et de chantage a lieu. Donc non, ce n'est pas la preuve que le dialogue social fonctionne. Pour moi, c'est la preuve de l'inverse. C'est que le dialogue social fiscale en France, même lorsque tout est anticipé, et c'est difficile de ne pas anticiper des JO, eh bien ça ne fonctionne quand même pas.
Alors effectivement, il y a des administrations où ça a été plus ou moins bien anticipé, où le dialogue social a plus ou moins bien fonctionné, et ça dépend aussi des syndicats en face. Vous avez des syndicats plus ou moins durs, à la SNCF, vous avez des collectifs de contrôleurs, ce sont eux essentiellement qui tapent aujourd'hui du poing sur la table, qu'on n'avait pas vu auparavant. Et
donc
qui,
c'est hors syndicat, ça, les collectifs
voilà,
de contrôleurs.
Et qui sont hors syndicat. Donc ça dépend aussi du paysage social à chaque fois. Par ailleurs, effectivement, cette année, on peut reconnaître au JO d'avoir mis en place, dans cette édition, une structure un peu particulière. Alors, vous parliez de Bernard Thibault, l'ancien secrétaire général de la CGT. C'est un comité qui a fait une charte sociale. Après, ce sont des bons vœux, mais dans ce comité, vous avez effectivement la CGT, vous avez effectivement des représentants du MEDEF, des représentants de syndicats, et ils ont essayé, alors c'est aussi à la fois, par exemple, garantir que sur les chantiers, vous aviez un certain nombre de règles qui étaient respectées, que vous aviez un certain nombre de droits sociaux qui étaient respectés. Malgré ça, ça ne fonctionne pas partout parce que on est aussi dans un contexte, Sophie Fell l'a rappelé, d'inflation où les porte-monnaies des Français sont quand même mis à l'épreuve depuis un an. Et puis il y a aussi, on y reviendra, mais il y a aussi un rapport avec le pouvoir qui fait que les syndicats se disent, eh ben ça fait quand même quelques années que sous ce pouvoir d'Emmanuel Macron, finalement les syndicats, le dialogue social est malmené, où on nous dit qu'on prend en compte notre parole, mais en fait on la prend pas vraiment en compte. On s'est quand même fait 14 manifestations contre les retraites l'année dernière, 6 mois, et on n'a rien obtenu. Il y a un petit goût de revanche à la française, un peu gaullienne.
Les syndicats font aussi payer le fait que le gouvernement ait été sourd aux revendications, aux manifs des retraites.
Je pense qu'il y a dans un certain nombre de professions, la réforme des retraites, on ne peut pas l'occulter comme ça, et elle est restée effectivement en travers de la gorge de pas mal de syndicats et de Français.
Alors, le syndicat des éboueurs parisiens a donc déposé mercredi un préavis de grève pour la période des Jeux Olympiques de Paris. Depuis quelques mois, les salariés de plusieurs secteurs clés mettent la pression à l'approche des JO. C'est un sujet de Léo Seux avec David Lemarchand et Benoît Thébault.
Des poubelles qui débordent en plein Jeux Olympiques. C'est le scénario cauchemar pour le gouvernement. Et les éboueurs le savent. Cette semaine, la filière traitement des déchets de la CGT a déposé un préavis de grève, valable du 1er juillet au 8 septembre. Parmi leurs revendications, une prime de 1900 euros.
Nous, on demande à 1900 euros tout le monde, parce qu'on fait le même travail. Déjà, nous, on décale notre vacances, partir avec notre gosse, on ne paie pas maintenant, cette année. Il faut qu'on touche quelque chose aussi.
Il faut dire que les syndicats sont en position de force à l'aube des Jeux Olympiques. Dernière victoire en date à la SNCF. La semaine dernière, les syndicats ont obtenu de la direction un aménagement du dispositif de retraite anticipée. Concrètement, pour les 15 derniers mois de leur carrière, les conducteurs de train pourront cesser leur activité tout en étant payés 75% de leur salaire. Ce sera 18 mois pour les contrôleurs.
C'est un dispositif qui existait déjà, sauf qu'avec l'allongement des carrières, on étend ce dispositif, c'est-à-dire on augmente la durée de période non travaillée et on va un peu mieux la rémunérer.
Cet accord, un coup de griffe dans la réforme des retraites selon la droite, embarrasse l'exécutif. Bercy, Matignon et l'Élysée jurent ne pas avoir été mis au courant en amont.
Le chantage a donc payé. Face aux menaces de grève des syndicats à l'approche des JO, la SNCF et la DGAC ont préféré capituler en achetant la paix sociale.
De quel droit une entreprise publique permet-elle à ses employés de s'exonérer d'une réforme qui s'applique à tous les Français ?
Coût du dispositif pour la SNCF, 35 millions d'euros financés grâce aux bénéfices du groupe.
La seule question qui vaille, que vous mentionnez dans votre question, c'est finalement qui va payer cet accord. Et là, monsieur le député, vous le savez très bien, le statut de la SNCF a changé. Elle a été transformée en société en 2020. Et elle est aujourd'hui dans le jeu concurrentiel, à l'exception de la gestion de l'infrastructure. Donc, je puis vous le dire, devant vous, le contribuable ne versera pas un centime pour financer cet accord.
À moins de 3 mois des Jeux Olympiques, plusieurs secteurs clés ont déjà obtenu des primes spéciales JO. Entre 800 et 2500 euros à l'hôpital public, jusqu'à 1900 euros pour les forces de l'ordre. À la RATP, les primes pourraient atteindre 2500 euros. Des bras de fer gagnés par les syndicats qui se succèdent, loin de la trêve olympique qu'appelait de ses voeux le président de la République mi-avril.
Je dis aux syndicats, on va tous être vigilants, mais on va montrer que la France sait accueillir un grand événement, se mobiliser, en étant exemplaire sur le plan du droit du travail, de la sécurité au travail, de la qualité au travail.
Donc il n'y aura pas de raison. En fait, ce que vous dites, c'est qu'il n'y aura pas de raison de faire grève, quoi.
Et donc, oui, à la trêve olympique. Et donc, on est au rendez-vous de cette exemplarité. On va l'être jusqu'au dernier moment. Et moi, j'ai confiance dans les syndicats. Ils ont l'esprit de responsabilité. Ils seront à nos côtés.
Mais tous les syndicats n'ont pas l'air de l'entendre de cette oreille.
Ça fait des mois qu'on répète la même chose et que tout le monde s'en fiche. Ça commence à être très fatigant. Mais les jeux, c'est des centaines de milliers de travailleuses et de travailleurs qui sont percutés, avec deux questions qui se posent. D'abord, celles et ceux qui vont devoir travailler beaucoup plus que d'habitude, avec des heures sup, des congés payés qu'ils ne pourront pas prendre. Et donc, pour cela, nous demandons quelles sont les conditions sociales de ce travail. Comment est-ce qu'on va héberger tous les travailleurs et travailleuses qui devront venir en Île-de-France pour les JO? Le logement, c'est une catastrophe. Comment on va prendre en charge leurs enfants alors que ce sont les vacances scolaires? Quelles primes ils vont avoir?
Prochaine menace pour le gouvernement, et pas des moindres, une grève dans la fonction publique. La CGT a déjà déposé un préavis pour la période des Jeux Olympiques. Dans son viseur, le projet de loi fonction publique. Il devrait être présenté à la rentrée.
Alors, Étienne Girard, question de Catherine en Côte d'Or. Où va-t-on si toutes les professions menacent de faire grève pendant les JO? On va revoir des images de la grève des éboueurs, parce qu'on l'a oublié, mais c'était il n'y a pas si longtemps, c'était en mars 2023, donc il y a un peu plus d'un an. Voilà, est-ce qu'on peut, c'est envisageable que Paris ressemble à ça, début juillet, même avant, juste avant les JO, quoi, et, ou pendant les JO?
Oui, dans l'absolu, c'est possible. Si les éboueurs municipaux décident effectivement de faire grève, alors ce ne sera pas comme ça dans tous les arrondissements. Ce sera comme ça, comme pendant la réforme des retraites, dans les arrondissements de Paris, où ce sont encore des éboueurs municipaux qui ramassent les ordures, puisqu'il y a aussi des arrondissements où ce sont des entreprises privées. L'hypothèse de toutes les professions qui menacent de faire grève,
mais c'est du bluff ou elles peuvent mettre à exécution leurs menaces, sachant que autant la réforme des retraites n'était pas populaire, autant les JO, les Français y sont quand même attachés. C'était un combat populaire, on va dire.
C'est essentiellement du bluff. Aucun secteur ne souhaite réellement être en grève au moment des JO. On l'a dit, c'est un levier, c'est une manière de mettre la pression. Maintenant, le seul risque quand même, c'est l'engrenage. C'est-à-dire que c'est Maurice Thorez qui disait « il faut savoir arrêter une grève ». Alors il disait « quand on a obtenu satisfaction », mais on pourrait refaire cette phrase « comment arrêter une grève sans perdre la face ?» Les éboueurs, ils font ça pour obtenir des choses. Il y a des primes, il y a une augmentation pérenne de 400 euros par tête.
Oui, parce que 400 euros, donc on est au-delà de la revendication sur les JO, puisque après les JO, ces 400 euros resteront, quoi.
Absolument.
À tomber tous les mois.
Absolument. Donc il n'est pas certain que la mairie de Paris accordera, comme ça signera immédiatement ce que demandent ces syndicats d'éboueurs. Mais comment on arrête les choses quand on n'a pas obtenu totalement satisfaction? Alors, personne n'a vraiment intérêt à ce qui est grève. Donc on peut penser qu'il y aura des esprits sérieux qui diront on signe un compromis quand même tant qu'on obtient des choses. Mais le risque, effectivement, c'est que dans un moment d'enthousiasme, de fièvre militante, il y ait des voix qui veuillent aller plus loin et aller jusqu'aux classes, jusqu'aux bras de fer, jusqu'aux dernières minutes avant les JO. Ça avait été le cas en 98 avec une fin à quelques heures du début. Mais quand la compétition est commencée, on basculera dans quelque chose d'autre. Et il y a effectivement, c'est faible comme probabilité, mais la possibilité d'avoir pas d'accord et donc des ordures.
Fanny Guinochet, est-ce que tout cela ne donne pas l'image d'un exécutif assez faible qui cède à ce qui est en fait un bluff? Parce que pas sûr que les syndicats mettent à exécution leur menace de gâcher la fête, comme on dit.
Oui, je pense que les syndicats n'auront pas envie d'être ceux qui gâchent la fête. Et quand vous discutez même avec les responsables syndicaux, ils ont bien conscience qu'ils n'ont pas envie de perdre l'image qu'ils ont obtenue. C'est-à-dire que quand même, l'année dernière, avec le conflit contre la réforme des retraites, ils ont plutôt été regagnés en sympathie, entre guillemets, auprès de la population. Là, franchement, être les troubles faits au moment de l'événement, non. En revanche, ce qui est vrai aussi, c'est que l'exécutif, alors est-ce que c'est une fébrilité ou pas, mais depuis le début de l'arrivée d'Emmanuel Macron, Macron, l'exécutif cède beaucoup plus quand il y a vraiment des frictions que quand vous avez des manifestations bien encadrées, etc. On a souvenir, alors ça remonte maintenant, mais quand même la première fois où Emmanuel Macron fait un chèque de 10 milliards d'euros, c'est les Gilets jaunes. C'est face à la violence. Donc vous avez aussi la difficulté après un quinquennat et puis un début d'autre, de second quinquennat, où vous avez un pouvoir exécutif qui quand même cède plutôt aux revendications quand elles se font de façon brutale, dure, j'ai envie de vous dire un peu virile, que quand vous avez des mobilisations, un dialogue, voilà. Là, par exemple, la fonction publique, ce qui est aussi compliqué, c'est que vous avez... Moi, je suis très étonnée de voir un gouvernement qui vous parle d'une réforme de la fonction publique, où on parle de pouvoir licencier, même si on peut être d'accord sur le fond, mais vous avez une réforme de la fonction publique qui est dans les cartons, qu'on vous annonce, qu'on vous commence à vous mettre sur la table à quelques semaines des JO.
Oui, alors pourquoi ce timing ?
C'est presque... Est-ce que c'est un couac politique ? Est-ce que c'est une façon de se dire on va quand même essayer d'avoir des voix pour les européennes en grattant quelques voix à droite de gens qui veulent faire une réforme ? En tout cas, c'est sûr que ce sont des irritants avant les JO qui ne font que mettre un peu d'huile sur le feu.
Sophie Fay, Fanny Guinochet disait ce gouvernement donne l'impression de céder face aux frictions plus que face aux manifestations. C'est vrai qu'on est tous très étonnés, alors on va y revenir, sur cet accord, alors qui pour le coup, on se demande quel est le lien avec les Jeux Olympiques, cet accord à la SNCF, alors dites-moi si j'ai faux, qui permet... à tous les cheminots de partir finalement plutôt que prévu durant que l'âge légal, 9 mois avant. Mais ce qui interroge aussi, c'est que les conducteurs, eux, ont un petit bonus, c'est 15 mois avant, et les contrôleurs pourront même partir en retraite 18 mois avant. Dites-moi si je me trompe, mais les contrôleurs, c'est bien ceux qui ont empêché les Français de partir en vacances pendant les vacances de février.
Alors cet accord, il fait deux choses. La première, c'est qu'il essaye d'inciter les cheminots à travailler plus longtemps, donc en créant des échelons supplémentaires, puisque maintenant il va y avoir des gens dans l'entreprise qui vont travailler jusqu'à 64 ans, voire au-delà. Donc il faut continuer à leur organiser des progressions de carrière. Il y en a qui vont devoir travailler comme les contrôleurs, alors qu'ils n'auront peut-être plus les aptitudes physiques de sécurité. Il y a beaucoup de personnes à la SNCF qui travaillent en 3-8 et qui travaillent la nuit. Tous les gens qui s'occupent de la maintenance des trains, par exemple, le font la nuit, puisqu'on n'a pas assez de matériel roulant. Donc tous ces gens qui ont beaucoup de pénibilité, à la fois, s'ils continuent quand même à travailler, on leur prévoit des fins de carrière plus intéressantes, et s'ils ne peuvent pas continuer à travailler... la SNCF met de l'argent sur la table dans cet accord pour leur prévoir des formules de reconversion.
C'est pour tout le monde. Les 18 payer 75% pour rester chez soi, les 9 mois pour les cheminots et 18 mois pour les contrôleurs.
Oui, mais les accords les plus intéressants sont pour les professions pénibles. Pour les autres, pour tous les cheminots, il y a la possibilité de partir plus tôt, mais là, vous êtes payé 75% de votre rémunération pendant les 18 mois. Ouais. Et donc, pendant les 9 mois où vous travaillez, vous ne touchez que les 3 quarts de votre salaire. Et pendant les 3...
Mais le fait que Sudrail, qui signe rarement un accord, là, les signer et se félicite, je cite Éric Meyer, cet accord permet de compenser une partie des effets néfastes de la réforme des retraites. C'est le signe de quoi, le fait
Mais c'est le signe que cette réforme des retraites, elle a mis le doigt sur la pénibilité. En fait... Travailler jusqu'à 64 ans, c'est facile si vous avez un travail que vous aimez, si vous avez un poste confortable et si vous êtes en bonne santé. Mais si vous travaillez de nuit sous un train, si vous travaillez dans des conditions difficiles et si vous n'avez plus toutes les aptitudes, l'audition, la vision pour exercer certaines missions de sécurité, vous devez vous reconvertir. Et donc la SNCF a pris ça en compte. Beaucoup d'autres entreprises le font, on n'en parle pas. Mais chez Michelin, ils ont signé un accord qui a été signé par la CGT, là aussi, où ils donnent jusqu'à 146 jours sur un compte épargne-temps pour les ouvriers qui sont en travail posté, et ça va leur permettre de partir 6 mois plus tôt.
Mais est-ce que l'âge de départ est le même chez Michelin qu'à la SNCF ?
Alors, ça dépend des... Non, à la SNCF, ils avaient aussi des âges. Alors, ils ont des âges légaux beaucoup plus... qui arrivent beaucoup plus tôt. 52, on a dit 52, voilà. 54 ans qui sont repoussés.
Pourquoi Bruno Le Maire, avez-vous écrit que l'exécutif était embarrassé par cette...
Juste un point, à cause de la réforme Touraine, où les cheminots comme les autres doivent cotiser un certain nombre de trimestres, maintenant, à la SNCF, on part presque à 60 ans à la retraite en moyenne.
D'accord. Je cite votre article,
À Bruno Le Maire, mais écoutez,
ils cite, sont... voilà, l'exécutif embarrassé par cet accord. Pourquoi l'exécutif, le gouvernement a-t-il mal pris cet accord au point d'avoir convoqué le patron de la SNCF?
Parce qu'après la réforme des retraites, ils ont demandé à la SNCF de négocier très vite cet accord pour justement prendre en compte les conditions de pénibilité et pour organiser les fins de carrière et pour que les syndicats acceptent la réforme des retraites. Les syndicats, au début, ont dit non, négocier là-dessus, ça veut dire qu'on accepte le report de l'âge à 64 ans, nous, on ne veut pas. Et puis, il y a eu la pression des contrôleurs qui, eux, ont dit, nous, on ne peut pas faire ce travail de roulant où on a des horaires très décalés, où on découche tout le temps jusqu'à 64 ans ou au-delà. Donc, on met la pression pour qu'il y ait un accord. Et donc là, Jean-Pierre Farandou a proposé au syndicat la discussion d'une plateforme sociale. Il l'a annoncé dans la presse, il a fait une interview dans Le Monde, il a dit à tout le monde, et puis ils ont commencé à négocier. Et je crois, moi, que l'exécutif ne s'est pas rendu compte de l'effet politique que cet accord allait avoir. Et donc maintenant, ils essaient.
C'est que les régimes spéciaux sont revenus par la fenêtre. Je cite Éric Meyer, le patron de la SN de Sudrail, qui dit bah voilà, on a finalement cette réforme des retraites, elle ne s'appliquera pas.
Elle s'appliquera. Ils vont gagner quelques mois ils vont pas avoir 2 ans de plus, ils vont gagner peut-être 6 mois, parce qu'ils avaient déjà des accords pour partir en avance. Mais vous verrez que dans toutes les entreprises où il y a de la pénibilité avérée, où les gens travaillent de nuit, on va être obligé d'arriver à ce type d'accord. L'autre chose, c'est que les entreprises au-delà de 60 ans, en fait, le taux d'absentéisme, les problèmes de santé sont plus importants, les problèmes d'aptitude au travail sont plus importants. Donc les entreprises, et c'est bien ça qui embête Bruno Le Maire, elles essayent quand elles doivent se séparer de salariés, plutôt de se séparer de ces salariés-là qui coûtent cher et qui sont plus absents plutôt que des autres. Et c'est bien ce qu'on a dit tout le temps pendant la réforme des retraites, qu'il y avait un problème d'emploi des seniors qu'il fallait régler avant de repousser l'âge de la retraite, et on est en plein dedans.
Richard Verly, donc Bruno Le Maire, en tous les cas, n'était pas satisfait de l'affichage, en tous les cas, et de l'effet que ça a eu. Je le cite, cet accord a donné l'impression d'un deux poids, deux mesures très provoquant pour beaucoup de nos compatriotes qui travaillent dur et qui ont accepté la réforme des retraites.
Oui, mais d'abord, je voudrais quand même revenir au contexte. Il y a quand même une collision des narratifs. Ce que le gouvernement, et notamment Emmanuel Macron, n'arrête pas de répéter, on l'a vu dans cet entretien, c'est que les Jeux Olympiques vont être une fête pour tout le monde, pour les Français. En gros, soyons tous heureux d'accueillir les Jeux Olympiques. Et a priori, c'est ce qu'on va entendre encore plus à partir du 8 mai, à partir du moment où la flamme va descendre du Bellem pour arriver dans le port de Marseille et ensuite sillonner la France. Sauf que, je suis désolé, ce discours-là, il prend pas partout. Il y a encore pas mal de gens qui n'ont pas la fièvre olympique. Il y a encore pas mal de corporations, il y a pas mal de travailleurs qui n'ont pas cette fièvre olympique, qui ne considèrent pas que d'un seul coup, le pays va être une fête extraordinaire et que leur devoir, c'est d'y participer. Et je pense que c'est cette collision des narratifs, qui est quand même politiquement très inflammable, qui embarrasse beaucoup le gouvernement. Alors il y a bien sûr aussi ce que vous dites, et ça c'est le fond, c'est le fait que la réforme des retraites est en train de rentrer par la fenêtre, ou plutôt la contre-réforme est en train de rentrer par la fenêtre. Mais moi ce qui m'inquiète plus, c'est que je ne vois pas, comme correspondant d'un média étranger à Paris, je ne vois pas la ferveur prendre place. Donc la trêve olympique qu'Emmanuel Macron revendique, elle pourrait avoir du sens, mais il faudrait quand même se poser la question, pourquoi ça ne prend pas? Et ça m'interroge, et notamment à Paris, et il y a peut-être une responsabilité particulière de la ville de Paris qui devrait alors, elle, vraiment être en fête, et très franchement, pour l'instant, 3 mois avant l'ouverture des JO, on ne la sent toujours pas, cette ferveur.
Revenons sur cet accord. Est-ce que politiquement, il a embarrassé le gouvernement à 5 semaines des élections, en se disant, moi, mes électeurs, ils sont plutôt à droite, et cet accord, c'est pas la tasse de thé de mon électorat de droite.
Bah, il y a ça, c'est pas la tasse de thé de mon électorat de droite. Contrairement à ce que dit le gouvernement, il y a quand même un certain nombre de Français qui n'ont pas digéré, et pas que les syndicats, hein, qui n'ont pas digéré le fait de travailler 2 ans de plus, alors qu'on voit que du côté des entreprises, et bah, c'est quand même très difficile d'avoir des emplois maintenus, des progressions de carrière. Donc il y a quand même un petit côté, effectivement, effet boomerang de la réforme des retraites. Et puis effectivement, cet accord, il va donner lieu à d'autres demandes dans des entreprises, y compris des entreprises privées. Pourquoi vous êtes par exemple dans le bâtiment et vous travaillez dur, et la pénibilité, oui, vous pourriez être en droit, vous faites des ponts, vous travaillez dans des conditions très difficiles, vous avez autant de légitimité, j'ai envie de vous dire, qu'un conducteur de la SNCF a demandé à avoir des dérogations, entre guillemets, ou un traitement qui fait que vous partez un peu plus tôt. Donc c'est vrai que derrière la réforme des retraites, il y a un certain nombre de dossiers qui n'ont pas été traités. C'était pas tout de dire, on décale de 62 à 64 ans l'âge de départ, mais en fait, on a mis en place, le gouvernement a essayé de compenser, d'ailleurs, ça lui a coûté cher sur la réforme des retraites, des systèmes de carrière longue. Souvenez-vous, si vous aviez démarré très tôt, vous pouviez continuer à partir plus tôt à taux plein, mais il y a aussi un certain nombre de Français qui ne sont pas dans les carrières longues et qui ont des métiers pénibles, qu'ils soient la nuit, en travail posté, etc. Et qui, eux, aujourd'hui, se disent en fait, ça va quand même être difficile. Et là, il y en a... Et ce qui est terrible, c'est qu'on voit bien que sur l'emploi des seniors et les fins de carrière, c'est quand même un angle mort. On ne l'a pas traité vraiment. Et les syndicats et le patronat n'ont même pas réussi à se mettre d'accord. Là, récemment, il y a eu une négociation qui a échoué. Donc, vous voyez, il y a cet angle mort qui arrive, c'était un peu prévisible, JO ou pas JO, d'ailleurs, c'était un peu prévisible.
Enfin, le moment n'est quand même
mais
pas
anodin. Le moment n'est pas anodin. Effectivement, mais il n'y a pas que la SNCF, où après la réforme des retraites, le gouvernement a dit, dans les entreprises, ou patronat et syndicats, vous allez essayer de trouver des systèmes pour qu'on maintienne un peu plus longtemps les salariés en emploi, parce qu'effectivement, la France a un véritable problème d'emploi. On travaille beaucoup en milieu de carrière, mais en fait, les jeunes et les vieux...
Le taux d'activité des plus de 60 ans, qui est deux fois inférieur à celui de l'Allemagne.
Voilà, oui, mais ça tient certes à peut-être des Français qui ont ce rapport à la retraite, mais pas que. Si on est honnête, on voit bien que dans les entreprises, les fins de carrière, elles sont difficiles.
Étienne Girard, est-ce qu'il y a le risque, avec, à tort ou à raison, ce qui est perçu comme des salariés protégés qui sont en mesure d'arracher des concessions, est-ce qu'il y a un risque de rallumer une guerre publique-privée ? Je cite Éric Ciotti, il faut privatiser la SNCF. on en arrive à ce genre de conclusion, certains à droite.
C'est à mon sens tout le problème de cette affaire-là. Quand Patrice Vergriete, le ministre, s'exprime, il dit la SNCF, c'est une entreprise privée, ça ne va pas coûter un centime aux contribuables. Et c'est là toute l'ambiguïté, tout le faux-semblant de la situation. C'est que sur le papier, effectivement, la SNCF, c'est une société anonyme, sauf qu'elle est à 100% de capitaux publics. Elle fait officiellement des bénéfices. C'est ce que dit d'ailleurs la SNCF. Elle dit on gagne de l'argent. Effectivement, 2 milliards il y a 2 ans et 1 milliard l'année dernière. Sauf que cet argent, il est gagné parce qu'il y a un subventionnement, en tout cas parce que l'État abonde à hauteur
de... L'État a repris 35 milliards d'euros de dettes.
Exactement. Et l'État, l'année dernière, a abondé le budget de la SNCF à hauteur de 20 milliards d'euros. C'est donc tout le problème de la situation. C'est qu'on fait passer un accord d'entreprise qui serait absolument légitime. N'importe quelle entreprise a le droit de proposer des conditions favorables à ses salariés. Sauf que n'importe quelle entreprise, elle fait des bénéfices grâce à son travail et pas grâce à l'État qui est derrière.
Alors, Sophie Fay, c'est pour cela que Bruno Le Maire s'est senti obligé, parce qu'à tort ou à raison, on a l'impression d'une SNCF qui coûte très cher, s'est senti obligé de convoquer Jean-Pierre Farandou.
Alors, qu'il le convoque, c'est normal, qu'il lui fasse expliquer l'accord.
Il avait l'air d'être en colère, quand même. Il a parlé d'un dysfonctionnement à la SNCF.
Alors, il y a peut-être il y a sans doute un dysfonctionnement à la SNCF, mais parce que le dysfonctionnement, c'est que je crois que, vous savez, ils étaient très contents d'obtenir cet accord signé par les quatre syndicats, et pour eux, c'était la trêve olympique. En fait, Sud et la CGT signant un accord à la SNCF, ça ne s'était pas vu.
Sudrail, est-ce que ça ne dit pas d'ailleurs de ce qu'il y avait dans l'accord
signant un accord à la SNCF, ça ne s'était pas vu. Ça se passait parfois pour des accords sur l'égalité salariale homme-femme, mais sur un accord comme ça, ça ne s'était jamais vu.
Ça veut dire qu'il était avantageux.
Donc pour eux, il était avantageux, mais pour eux, c'était la trêve olympique, c'était exactement ce que leur avait demandé le gouvernement. Par ailleurs, ils ne comprennent pas trop ce qui se passe, parce que vous savez, avec les ponts du mois de mai, leurs trains sont pleins. Et il y a effectivement des activités qui sont subventionnées à la SNCF, qui sont les activités de TER, de trains régionaux ou de trains intercités. Mais le TGV n'est pas subventionné. Et ce qui gagne de l'argent, ce qui rapporte le milliard, c'est les TGV. Là, les TGV du mois de mai sont pleins. Les TGV du mois de juin vont être archi pleins, puisque tous les voyages d'affaires qui ne se sont pas faits en mai vont se faire en juin. Ils vont faire un mois de juin historique. Donc, ils remplissent la promesse du gouvernement. Le gouvernement leur a dit, il faut que vous fassiez des résultats, parce que maintenant... il n'y a plus de dette possible et on ne veut pas financer, malgré ce que Elisabeth Borne avait dit sur les 100 milliards, on ne veut pas financer la rénovation du réseau ferroviaire. Et donc tous les ans, ils doivent apporter entre 1 milliard et 1 milliard 7 à la rénovation de ce réseau. Ils l'apportent. Donc ils avaient l'impression, eux, d'être les bons élèves, de signer l'accord qui allait ouvrir la trêve olympique. Et cet accord, ils l'ont négocié devant leur... c'est toujours le ministre des Transports et Matignon qui s'occupe de social. Le ministre des Transports et Matignon ont regardé ces négociations, ont vu qu'on allait signer cet accord et normalement tout le monde aurait dû être content.
Mais bon, alors, voilà. Bruno Le Maire, il n'était pas au courant de cet accord ? Il dit qu'il n'était pas au courant.
C'est ce qu'il dit, en tout cas. Il dit qu'il n'était pas au courant. Et je ne suis même pas sûre qu'au sein de l'État, mais là, ça relève de dysfonctionnement au sein de l'État, tout le monde est vraiment regardé. On savait effectivement que la SNCF négocie, mais je ne suis pas sûre que certains, au cœur du réacteur de l'État, étaient vraiment au courant de ce que contenait l'accord. Et effectivement, pour des politiques qui, l'année dernière, ont eu 3 à 4 mois de grève pour faire travailler un peu plus longtemps les Français, c'est d'accord, où en plus les syndicats disent bah en fait on contourne votre réforme, ils le vivent mal.
Ouais, parce voilà. Que le lundi matin dans mais la presse, oui. Ils apprennent que...
C'est vrai.
Ce qui est quand même intéressant d'un point de vue politique, c'est qu'une trêve, ça ne se décrète pas. Une trêve, ça se négocie. Une trêve, c'est tout le monde prend part et tout le monde est d'accord. Et d'une certaine manière, je trouve très intéressant ce que vous venez de dire, c'est que les syndicats, si j'ai bien compris, pensaient aller dans le sens de la trêve avec cet accord. Et là encore, on a la réalité française qui revient à chaque fois en boomerang, c'est-à-dire que vous avez un pouvoir vertical qui veut décréter la trêve, mais la trêve, quel que soit le coût pour toutes les personnes concernées, sauf que les personnes concernées en question, elles disent « on est d'accord pour la trêve, mais c'est à nos conditions, c'est pas aux conditions que vous avez décidées pour nous ». Ça, c'est quand même très révélateur de ce qui parfois ne fonctionne pas.
Sophie Fay, question de Jean-Louis dans la Sarthe. Je croyais que l'accord sur les fins de carrière à la SNCF allait éviter les grèves. L'État se serait-il fait flouer ? Parce que mercredi dernier, il y a eu un nouveau préavis de grève de la SNCF Île-de-France en disant finalement, il y a un côté course à l'échalote, hein, à la RATP, ils ont beaucoup obtenu, et nous. C'est ça ouais. Ce qui s'est passé mercredi.
Alors ce qui se passe, c'est que en fait, il faut négocier une prime pour les JO, puisqu'on demande aux gens de travailler à des périodes où d'habitude ils sont en congé, à des périodes où d'habitude ils s'occupent de leurs enfants, donc on leur demande un effort. On leur demande de travailler plus longtemps, on va demander à certains conducteurs de venir à Paris alors qu'ils ne conduisent pas des trains à Paris, donc il faut négocier une prime. Et tout le monde attend le dernier moment pour négocier la prime, parce que tout le monde veut autant que le voisin, donc tout ça est en train de converger. Résultat, à la RATP, ils ont lâché quand même des primes très intéressante, hein, jusqu'à 2 500 € pour les conducteurs de métro, puisqu'on a vraiment besoin d'eux. Et à la SNCF, pour l'instant, la négociation n'est pas terminée, parce qu'on n'a pas tout à fait les mêmes périmètres, les mêmes champs, donc ils sont en train de continuer à discuter. Ce qui se passe dans la SNCF, c'est qu'il y a les syndicats, mais derrière les syndicats, il y a aussi des collectifs. Et maintenant, ça s'est organisé partout. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a aussi des collectifs...
Les contrôleurs qui ont fait des pages Facebook et qui discutent entre eux...
Oui, mais maintenant, ça existe dans toutes les professions. En fait... c'est presque les outils qui vont plus vite que les entreprises. Vous avez des groupes WhatsApp. Parfois, vous avez un groupe WhatsApp dans un atelier, dans un groupe de conducteurs de bus. Vous avez pour s'échanger des informations du quotidien. Puis quand il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, un irritant, une négociation, c'est très facile de se regrouper et de s'organiser.
Et alors, les contrôleurs, ils ont plus de poids que les conducteurs ?
Non,
ils ont plus de poids que les cheminots de bureau ?
Pas forcément, parce que là, les contrôleurs, ça s'est à peu près calmé, mais il y a de nouveaux collectifs en Île-de-France doivent travailler pendant les JO et qui sont en train de s'organiser et qui mettent un peu l'épée dans le dos des syndicats. D'accord. Et donc, ce que dit en gros ce préavis du 21 mai, il est là pour dire, écoutez, arrivez à un accord maintenant et pas à la veille des JO parce que ça risque de mal se passer.
Fanny Guinochet, on a l'impression qu'en tous les cas, c'est le boomerang d'une réforme mal digérée parce qu'en février, il y a une grève.
Il y a ça, et puis effectivement, ça va rouvrir le sentiment d'injustice entre ceux qui ont les moyens de faire des leviers et effectivement d'obtenir des choses, et puis les autres, notamment les salariés du privé qui, eux, n'auront pas énormément de primes et à qui on dit, écoutez, on va fermer l'entreprise à ce moment-là parce que ça sera impossible de circuler et ils n'auront pas le choix, ou bien alors vous faites du télétravail, vous n'avez pas le choix. Donc c'est vrai que ça va nourrir, et Dieu sait que là, pour le coup, les Français le vivent très mal, le sentiment d'injustice entre les catégories, parce que les Français sont capables de faire des efforts, ils ont plein d'avantages. Mais c'est vrai que dès qu'on sent que l'autre s'en sort mieux que le voisin, là, ça ne passe pas. Peut-être que ça passe mieux dans certains pays, mais en France, les mouvements sociaux partent de là.
Et comment on fait en Suisse ? On est plus collectif ? Non, parce que non seulement les seniors ont un taux d'activité supérieur, et on a l'impression que la grève et les étrangers nous disent que c'est une spécialité française.
Alors avant de parler de la grève des JO, parce que Fanny a raison, figurez-vous, en Suisse, il était question d'organiser les prochains Jeux Olympiques d'hiver dans le canton du Valais. Il y a eu un référendum et le canton du Valais l'a refusé. La population a dit non, on n'en veut pas. Donc ça rappelle quand même quelque chose, c'est-à-dire que les JO, peut-être faut-il se poser la question que ce genre de grande manifestation sportive, elle n'est plus aussi populaire qu'on le croit et que le président Macron le décrète, comme il va encore le répéter cette semaine, par rapport au train et au service public. En Suisse, tout se passe par branche. Les trains, les chemins de fer fédéraux, l'équivalent de la SNCF, sont publics. Mais il faut dire une chose, les salaires sont beaucoup plus élevés qu'en France. Et donc, bien évidemment, quand vous avez des salaires nettement plus élevés, vous avez moins de chances que le choc social se produise. Quand même un mot sur le donnant-donnant. Donnons la chance aux cheminots. Si le service ferroviaire est exemplaire pendant les JO, si tout se passe parfaitement, alors à ce moment-là, peut-être que le public oubliera ce qui s'est passé et les remerciera pour les services rendus. C'est ce qu'il faut espérer.
Christophe Étienne Girard dans la Vienne. Si j'ai bien compris, on obtiendra la trêve olympique quoi qu'il en coûte. Alors est-ce que ces JO vont maintenir le quoi? Il y aura un quoi qu'il en coûte JO?
Quoi qu'il en coûte, c'est trop fort. En tout cas, il y a des concessions qui n'auraient pas existé s'il n'y avait pas eu les Jeux Olympiques. Et ça, je trouve ça passionnant.
On pourrait rajouter les aiguilleurs du ciel qui ont
les
surfé.
Contrôleurs aériens, ouais.
Les contrôleurs aériens qui ont surfé sur les JO pour obtenir des jours de congés supplémentaires et des hausses de salaire.
Absolument. Et il y a les fameuses primes de la RATP et de la police. Mais qu'on peut
comprendre parce que là, il y a un boulot en face. Quoi.
Voilà, exactement. C'est le rapport, la friction du court terme et du long terme. Et dans la psychologie d'Emmanuel Macron, il y a depuis longtemps l'idée qu'il faut lâcher des choses pour les Jeux Olympiques parce que cette parenthèse de 2 semaines au cœur de Paris va nous rapporter énormément sur le long terme. Donc pour réussir cette quinzaine, il y a l'idée que c'est pas grave, on peut lâcher des choses, même pour plus tard, même qui se produiront, même qui vont avoir des effets politiques gênants ou qui vont mettre l'exécutif dans une position délicate, parce que si tout est bien réussi, si vraiment il y a un effet waouh, c'est même l'expression qui est utilisée parfois pour qualifier l'objectif de ces JO, ça va donner un souffle au pays qui va nous rapporter énormément. Et ce rapport-là, on le voit pas forcément dans les chiffres, puisque les prévisions de croissance, elles expliquent que les JO, ça va avoir quasiment aucun impact. Mais c'est quelque chose de l'ordre du psychologique, du moral, de l'image du pays dans le monde et de l'image du pays même par rapport aux habitants qui verraient la France autrement.
Fanny Guinochet, est-ce que vous étiez à Londres, je crois, hein, pour les JO de 2012. Est-ce qu'on avait les mêmes débats négatifs avant et une fois que l'élément est passé, on a dit finalement...
Quand vous discutez effectivement avec le londonien, ils vous disent qu'il y avait le même scepticisme avant les JO, qu'effectivement on regardait ça, c'était pas vraiment une fête, etc. Et puis que petit à petit, plus on s'approche de l'événement, et effectivement il y a eu quelques grèves hein, d'ailleurs à Londres un peu avant l'événement, eh bien la ferveur elle prend petit à petit. Voilà, ça se rapproche des gens du quotidien. Donc là peut-être qu'effectivement on aura le même engouement avec cette flamme qui arrive dans le port de Marseille cette semaine,
mercredi prochain,
qui parcourt la France, donc petit à petit on va avoir peut-être de plus en plus de Français qui vont être embarqués dans cette fête. Et c'est une histoire, les JO, c'est compliqué. À chaque fois, on nous dit le coût des JO, ça rapporte, ça coûte. Il y a des ardoises, la facture est toujours plus élevée que prévu. Alors là, encore plus avec l'inflation. Mais c'est une histoire d'influence aussi. Et c'est là-dessus qu'Emmanuel Macron parie, sachant qu'on parle des 15 jours, mais il ne faut pas oublier les Paralympiques aussi. Hein, donc ça va être un peu plus long, puisque ça va jusqu'au 8 septembre. Et que... par exemple, les enfants ont reçu, c'est très critiqué, mais les enfants de toutes les écoles élémentaires ont reçu un petit livret qui explique à quoi servent les JO et cette petite pièce de 2 euros qui a été distribuée. Eh bien, certains, moi j'ai pu constater que les enfants, ils sont plutôt contents d'avoir une pièce qui leur explique. On leur fait faire, il y a un certain nombre d'écoles qui travaillent autour des JO. C'est pas une fierté, mais il y a quelque chose d'un peu de cohésion.
C'est une vraie pièce.
Ah oui, c'est une vieille presse de... J'aurais dû venir
donc
avec...
il y a 12 millions d'écoliers, ça fait déjà 24 millions de dépenses.
Une pièce de 2 euros, mais quelque part, c'est aussi une façon de dire aux enfants, bon, en partie, vous avez le livret qui explique à côté, vous avez les écoles qui font des jeux autour des JO, des exercices de mathématiques autour des JO. Bon, dans un moment où il y a quand même beaucoup de choses qui ne sont pas très réjouissantes pour notre jeunesse, c'est peut-être pas mal de travailler autour d'un événement un peu fédérateur.
Oui, mais là, on parle de deux choses différentes. On parle de l'acceptation des JO au sein de la population française, faire du sport un engouement populaire. Alors effectivement, ça peut peut-être marcher, surtout via la jeunesse. Mais en termes d'influence, c'est exactement le sujet du livre qu'on a écrit avec François d'Alençon. Je peux vous dire que nous, on a rencontré beaucoup d'observateurs étrangers. Personne, littéralement personne, ne nous a dit que l'influence de la France dans le monde allait être plus importante à cause des Jeux Olympiques. Non, on attend la France sur les terrains internationaux qu'on connaît, sur les grands conflits, sur les grandes négociations internationales, sur le climat, sur le dossier européen. C'est toutes les ambitions d'Emmanuel Macron. Ce n'est pas les Jeux Olympiques qui vont transformer l'influence de la France dans le monde.
Ça peut rendre fiers les Français en voyant une belle cérémonie d'ouverture.
Sûrement, et c'est pour ça que tout ce qu'on évoque maintenant est un souci. C'est-à-dire que tous ces petits cailloux sur la route d'un engouement français posent problème. Mais la France ne sera pas plus puissante parce qu'elle a organisé les JO de 2024. Ça, je n'y crois pas.
Alors, on parlait de l'effet waouh. Une fois les JO passés, que restera-t-il comme héritage ? Reportage en Seine-Saint-Denis, où se trouve notamment le village olympique. Le département le plus défavorisé de France va-t-il profiter de ses investissements pour rattraper son retard ? C'est un sujet d'Anne Maquignon, Pierre Dehorne et Benoît Thébault.
Il est presque prêt, le village olympique. Dans quelques mois, ce sont 14 250 athlètes qui dormiront ici. Henri Specht est celui qui a imaginé la construction de ce village.
Ici, on est dans une chambre d'athlète avec deux lits, ce qui est finalement le standard des chambres du village olympique et paralympique. Elles ont été dimensionnées pour faire 12 mètres carrés de façon courante et avec deux lits, deux penderies et chaque lit a sa petite table de nuit.
Des aménagements qui continueront à exister au-delà des Jeux. Les chambres d'athlètes deviendront fin 2025 des logements pour 6000 habitants.
Là, on a le coin avec les évacuations pour la cuisine.
Tout a été réfléchi pour la transformation, comme cette cloison entièrement démontable.
On voit qu'en fait, on a encore des vis apparentes. Donc, au lendemain des Jeux, les opérateurs immobiliers vont démonter ces cloisons pour ouvrir les pièces et les rendre plus spacieuses. L'idée était vraiment de créer les plus beaux logements pour l'héritage. Et de tout de suite penser aux logements dans leur configuration définitive et les adapter au mieux pour la phase de Jeux Olympiques et Paralympiques.
L'héritage des Jeux Olympiques.
Ouais, ça a bien poussé. Hein.
Stéphane Troussel, le président du département de Seine-Saint-Denis, s'en est rapidement inquiété. 1,7 milliard d'euros d'argent public ont été investis rien que sur son territoire.
On s'est dit, on va aller voir des villes européennes qui ont organisé les Jeux. Donc on est allé à Barcelone, à Athènes et à Londres. Notamment, je me souviens de ce vieux maire travailliste de Londres qui nous avait dit, de toute façon, dites-vous bien que l'héritage des Jeux sur votre territoire, c'est vous. C'est vous qui devez ne jamais rien lâcher parce que finalement, c'est vous qui êtes préoccupé, qui serez préoccupé par ce sujet-là. Et donc, on n'a rien lâché.
Un conseil dont il s'est vite rappelé quand l'épreuve de tir prévue sur cette friche gorgée d'hydrocarbures a soudainement été délocalisée à Châteauroux.
Donc là, on doit aller, je pense qu'on doit voir la petite allée.
12 millions d'euros prévus initialement pour la dépollution sont alors remis en question.
Ce qui me souciait beaucoup, c'est que s'il n'y avait pas d'épreuve, il n'y avait plus de justification que la Solideo nous aide à acquérir et dépolluer et aménager ce site. Et donc, c'est pour ça que je me suis battu pour qu'il y ait symboliquement une épreuve.
Le paramarathon partira d'ici le 8 septembre prochain. Mais à Saint-Denis, tous les habitants ne voient pas l'héritage du même œil. 2800 logements post-Jeux Olympiques, d'accord. Mais à quel prix et pour qui ? C'est l'inquiétude d'Alexandre Chon. Il est à la tête d'un collectif d'habitants vigilants.
On vous met en avant que ce village des athlètes, ce sera aussi un très grand exemple en termes de mixité sociale. Le problème, c'est que ce qu'on ne vous dit pas, c'est que nous avons, comme je vous ai dit tout à l'heure, à peu près 50% de logements sociaux sur le parc immobilier de la ville de Saint-Denis. On s'attendrait donc à ce que le village des athlètes ait 50% de logements sociaux également. Il n'en est rien. On a pris même pas 50%, même pas 40% ni 30%, mais seulement 25% de logements sociaux, ce qui est le socle légal de ce qu'oblige la loi. Saint-Denis, avec les Jeux Olympiques, met un coup d'accélérateur dans la métropolisation, dans la gentrification et finalement dans des phénomènes qui sont à contraire des classes populaire.
Les Jeux olympiques auront effectivement un impact sur les prix. Ces logements sont vendus jusqu'à 7000 euros du mètre carré, 3000 euros de plus que le prix moyen actuel.
Sophie Fay, on entendait à l'instant ce monsieur parler du risque de gentrification. Ce matin, dans Le Parisien, il y avait un article d'ailleurs qui montrait que les élus de la France insoumise dénonçaient des jeux trop élitistes, avec une en plus avec des caméras partout. C'est Éric Coquerel qui parle d'un Big Brother géant. Est-ce que la fête sera si populaire que ça, ou est-ce qu'elle ne sera pas un petit peu pour les gens qui ont les moyens?
En tout cas, il faut faire très attention à ce qu'il n'y ait pas dans les tribunes les invités des sponsors et que ce soit un phénomène VIP. Il faut que on voit déjà que venir à Paris, habiter à Paris, enfin, pour ceux qui n'auront pas anticipé sur le prix du billet de métro, ce sera plus cher. Pour ceux qui veulent se loger à Paris, ce sera plus cher. Donc on voit quand même qu'il y a un côté élitiste à ces jeux. Et je reviens sur les Jeux de Londres. Il y a un roman de Jonathan Coe qui est très intéressant, qui commence sur cette cérémonie d'ouverture que tout le monde adore et qui finit sur le Brexit et qui montre bien que les Jeux, en fait, tout le monde a adoré, mais après, vous avez la gentrification de Londres, vous avez ces quartiers qui étaient... Alors évidemment, ça les change et ça permet de faire des belles choses dans la ville, mais ça fait monter les valeurs et ça aussi aggrave les fractures. Donc effectivement, il faut faire très attention à ça. C'est pas dit que ça va se passer. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont faites pour que tout le monde participe. Il y a 180 000 billets qui doivent normalement être donnés gratuitement à des habitants de la Seine-Saint-Denis. On a fait attention sur les transports. Vous savez, il y aura quand même le leg des transports. Il va quand même y avoir la ligne 14 qui va aller de Saint-Denis jusqu'à l'aéroport d'Orly. Vous avez, on a décidé aussi de prolonger la ligne 11 qui va, elle, jusqu'à Rosny-Perrier pour que une partie de l'Île-de-France qui n'est pas concernée par les Jeux en profite aussi.
Donc, désenclavement.
On ne met pas ce qui est hors-jeu à l'arrêt. Donc il y a des ponts, et puis il y a tous les ouvrages, les piscines et tout ça qui vont rester en Seine-Saint-Denis, qui sont positifs, mais il faut quand même faire très attention à ce que ce ne soit pas perçu comme les Jeux des riches.
Alors justement, Étienne Girard, en termes de vous parliez de la piscine en Seine-Saint-Denis, qui devra entretenir les infrastructures des Jeux olympiques par la suite? N'est-ce pas un cadeau empoisonné fait à la Seine-Saint-Denis? Donc il y a notamment la piscine olympique en Seine-Saint-Denis.
Oh, c'était un souhait de la Seine-Saint-Denis de bénéficier de davantage de centres aquatiques, parce que l'analyse qui avait été faite, c'est qu'il y a un vrai problème en Seine-Saint-Denis de niveau et de pratique de la natation par les jeunes.
Qui ne savent pas nager.
Voilà, qui est un défi. Bon, en tout cas, ils savent moins bien nager qu'ailleurs. Donc, c'était un souhait d'avoir. Alors, il y a plusieurs centres aquatiques qui vont être ouverts à Saint-Denis, d'ailleurs. Il y aura le centre aquatique où auront lieu les Jeux Olympiques avec les épreuves de natation synchronisée, de plongeon, les épreuves de pool, du water polo. Il y a une autre grande piscine qui sera ouverte, d'ailleurs, dès septembre 2024. Elle est à Saint-Denis également. Et elle, pendant les Jeux Olympiques, elle accueillera les entraînements, notamment du water polo. L'idée, c'est de permettre à tous les jeunes de Seine-Saint-Denis d'avoir accès à une piscine d'un niveau et d'une modernité importante et de pouvoir utiliser pour les scolaires, organiser des parcours de sport-études, etc. De faire basculer la Seine-Saint-Denis dans une nouvelle dimension de ce point de vue-là. D'ailleurs, ça va devenir un vrai centre sportif. Il y aura aussi des terrains de paddle, ce sport de raquettes, des terrains de football de rue. C'est un centre de loisirs extrêmement important qui va ensuite s'ouvrir dans ce centre aquatique dit olympique de Saint-Denis.
Bien. Oui.
C'est vrai que ces investissements, ils resteront. On parle des piscines, on parle des casernes, on parle des ponts, on parle de gymnases qui n'existaient pas et qui, sans l'effet de levier des Jeux, auraient mis certainement beaucoup plus de temps à sortir de terre. Après, la question du logement... Là, c'est la question, certainement une des questions les plus sensibles, parce que qui aura vraiment accès aux logements qui seront mis en place si le mètre carré est beaucoup plus élevé que...
Le village olympique risque d'être transformé en logement hors de prix ou assez
c'est
cher.
C'est pas quoi. Irrisque. En tout cas, il va être transformé en logement. Il faut voir à quel prix ils vont être commercialisés, ces logements, et qui pourra y avoir accès. Après, normalement, ça doit aussi drainer un certain nombre de gens qui vont consommer. Par exemple, je crois qu'il y a plus de 2500 fonctionnaires du ministère de l'Intérieur qui vont être dans ces bureaux. Bon, bah, on peut penser que ce sont des fonctionnaires qui vont venir quasiment tous les jours, peut-être décider d'habiter pas très loin de leur lieu de travail et donc de générer comme ça des afflux de population et d'essayer de désenclaver ce département qui est un des plus jeunes et un des plus pauvres de France. Effectivement, la volonté politique, elle est là. Il y aura certainement des couacs derrière. La question de l'entretien de tous ces équipements, elle va se poser, parce que c'est pas tout de faire... On construit des crèches, on construit des écoles aussi, mais bon, si vous n'avez pas de profs, et si les écoles, dans 5 ans, si vous n'avez pas assez de profs qui viennent dans les classes, et si les écoles, elles ne sont pas entretenues, parce qu'on n'a pas moyen d'entretenir les écoles, comme on le voit dans certains collèges de Seine-Saint-Denis, le pari, il sera complètement raté, ouais. C'est évident.
Alors, le grand risque, moi j'étais à Saint-Denis il y a quelques jours en repérage pour un reportage que je veux effectuer, le grand risque c'est que vous allez, après ces Jeux Olympiques, transformer notamment la ville de Saint-Denis, ce qui est effectivement bénéfique et on comprend que les élus s'en réjouissent, mais transformer toute la population, encore une fois actuelle, ne va pas en bénéficier. Parce que ces quartiers-là, après il y aura le jeu du marché immobilier, si ces quartiers qui sont issus du village des athlètes se trouvent être, il faut l'espérer, des quartiers agréables à vivre, bien connectés...
Ils vont être vendus très cher.
Très vite, eh bien ça va faire... la propriété va augmenter et toute une population qui habitait dans ces zones avant ne pourra plus y accéder. Donc c'est là où ça devient difficile, et vous citiez, je crois, la gentrification de Londres, et le fait que les prix ont explosé à Londres, c'est largement lié à ce type d'opération. Donc, mais est-ce qu'on peut l'empêcher? Il faut quand même se poser la question. Est-ce que c'était évitable? À partir du moment où vous décidez les Jeux dans une ville comme Paris, où la densité est énorme, je crois que quand même, moi je connais mieux l'exemple d'Athènes, ce qui reste des Jeux d'Athènes, c'est malheureusement pas les infrastructures, parce que beaucoup d'entre elles sont à l'abandon, parce que la ville ne peut plus les entretenir, mais c'est les transports. Là, pour le coup, tous les Athéniens vous diront que le grand bénéfice des JO qu'ils ont eu, c'est le métro d'Athènes qui leur a changé la vie. Si déjà les lignes dont on parle de transport s'avèrent efficaces et fonctionnent bien, je pense que ça, tout le monde s'en félicitera.
Alors, le gouvernement n'est pas uniquement confronté qu'à la colère sociale, il est également confronté à la colère de certains étudiants, notamment dans les, enfin, à Sciences Po. Cette semaine, donc, des étudiants ont continué leur mobilisation pro-palestinienne malgré les interventions des forces de l'ordre pour les déloger. Voyez ce reportage d'Anne Maquignon, Aubry Perrault et Diane Cacciarella.
Des drapeaux syndicaux et des cortèges de travailleurs, un autre slogan résonne aussi dans le cortège du 1er mai.
On est là pour l'honneur de la Palestine, ce qu'on assassine, même si Macron ne veut pas, nous on est là.
L'Aurélia, 22 ans, et ses copains de la Sorbonne ont choisi la fête du travail pour donner de la visibilité à leur mobilisation pro-palestinienne.
Il y a différents cortèges, il y a différentes causes qui sont défendues, mais nous on pense qu'elles peuvent s'unir aussi autour de la question de la Palestine, parce que c'est une question aussi qui pose la question de nos gouvernements, de ce qu'ils font aujourd'hui. Par exemple, le gouvernement Macron, il soutient le génocide, puisqu'en fait la France elle arme Israël, tout ça c'est lié, il renforce les budgets de l'armée, et derrière il baisse les budgets de la santé, de l'éducation, de la vie quotidienne des gens.
Une volonté d'élargir leur mouvement et un encouragement, celui de la patronne de la CGT.
C'est sain qu'il et elle exigent à débattre de la situation du Proche-Orient et qu'il et elle se mobilisent pour la paix. La jeunesse a toujours joué un rôle très important dans les mobilisations pour la paix, historiquement. C'est quelque part un signe de vitalité de notre jeunesse qu'elle porte toujours aussi fortement les valeurs et les exigences de paix.
Le soutien de la CGT est bienvenu pour la jeunesse. Mais dans le cortège, l'Aurélia lance un appel plus large aux partis politiques.
Je pense que c'est central que l'ensemble de la gauche politique, elle se mette du côté en fait, de la lutte pour le peuple palestinien. Et la réalité, c'est qu'il faut faire front aujourd'hui dans un contexte où il y a des attaques très dures contre la gauche et contre l'extrême gauche. Donc nous, en tout cas, on aimerait que l'ensemble des partis politiques puissent venir. Mais on souhaite aussi que la mobilisation elle reste indépendante.
Et cette semaine, la mobilisation s'est propagée. Rassemblement d'étudiants tous les jours et partout en France. Parmi les étudiants mobilisés, des militants politiques, des activistes du climat et aussi des jeunes qui manifestent pour la première fois.
On sort les banderoles, nous ?
Portant celle et militante pour le nouveau parti anticapitaliste.
Ils essayent de nous faire croire qu'on est minoritaire. Gabriel Attal, il dit que c'est une minorité dangereuse qui s'agite. C'est faux ! C'est faux ! On est majoritaire ! On est du camp de tous ceux qui défendent la paix qui...
Face aux critiques et aux accusations d'antisémitisme, l'étudiante de 22 ans en philosophie et en histoire se défend.
Ne regardez pas !
Se battre contre un génocide, se battre contre une politique coloniale ou une politique génocidaire, c'est pas assimiler toutes les personnes juives à quoi que ce soit d'ailleurs. On ne vise pas du tout toutes les personnes juives, ni en France ni en Israël. Par contre, on dénonce une politique, on dénonce un État. Moi, j'identifie aucun peuple à son État. Je pense pas que tous les Français suivent la politique d'Emmanuel Macron, par exemple.
Allez, avancez, avancez, avancez. On avance.
Quand la police débarque, en nombre, pour déloger la centaine d'étudiants présents sur la place de la Sorbonne, les jeunes dénoncent la politique autoritaire d'Emmanuel Macron.
Ils s'est fait gazer, ils ont détruit les tentes. En fait, vraiment, juste, c'est le visage... c'est quand même quelqu'un qui a quelque chose à se reprocher, qui envoie le peuple, qui envoie sa police comme ça. Il a peur que le mouvement s'étende, il a peur que les étudiants continuent à se mobiliser. La meilleure réponse, c'est ça, c'est qu'on est nombreux, c'est qu'on continue à chanter des slogans, c'est qu'on ne se laisse pas intimider.
Dès lundi, le mouvement pourrait s'étendre. Les étudiants devraient recevoir le renfort des lycéens. L'un des syndicats appelle à un blocus pour un cessez-le-feu à Gaza.
Alors justement, question téléspectateur Fanny Guinochet, le mouvement étudiant pour la paix à Gaza ne sera-t-il pas essoufflé d'ici le début des épreuves ?
Oui, oui, 26 juillet, ça fait loin, effectivement. Il va y avoir les vacances. Pour le gouvernement, la chance aussi, c'est qu'il va y avoir les ponts de mai. Là, j'entendais dans votre reportage que les lycéens allaient rentrer dans la danse.
Le gouvernement s'en inquiète.
Ah oui, oui. Bah, de toute façon, un mouvement de jeunesse, c'est toujours compliqué à gérer parce que soit il est instrumentalisé par des partis politiques, ce qui est souvent ce qui est parfois le cas, soit ce sont des collectifs, c'est pas forcément très bien structuré, et donc vous pouvez négocier avec des leaders. Là, c'est toujours un peu difficile de trouver des leaders qui représentent... en tout cas, tous les experts sociaux que je connais me disent
avec le risque
tous
d'un accident,
qu'il y a toujours le risque que ça dérape, qu'il y a un accident. Et là, on l'entend, hein, c'est aussi un malaise. Derrière, il y a des vraies revendications politiques. Mais c'est normal que la jeunesse se mobilise pour vouloir la paix, quelle qu'elle soit, contre la guerre. Enfin, je veux dire, toutes les générations l'ont fait avant celle-ci. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est aussi un malaise qui s'exprime. Les jeunes qui sont dans la rue, ce sont les jeunes qui, il y a 3 ans, ont eu le Covid. Il y a quand même un monde qu'on leur laisse, qui est quand même... on nous dit bien que la conflictualité augmente un peu partout dans le monde. Il y a quand même l'épée de Damoclès de ce réchauffement climatique. On comprend qu'il y a un malaise qui a besoin de s'exprimer. La difficulté, c'est comment on arrive à faire en sorte que le mouvement ne s'étende pas trop et que surtout il ne dérape pas dans l'ultra-violence, sachant que ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur la façon de revendiquer aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec les groupes WhatsApp, avec les collectifs. C'est d'autant plus difficile que dans les années 60, au mois de mai, on a eu des manifestations, on s'en souvient. Vous avez eu des manifestations aux États-Unis, enfin vous en avez encore. Là, c'est vrai qu'il y a des modes d'action qui sont un peu différents, avec un mal-être des jeunes. Moi, ce qui me frappe aussi, c'est que quand on voit au niveau des jeunes, le mal-être des jeunes est beaucoup plus fort qu'il y a quelques années.
Richard Verli, indignation mondiale. D'ailleurs, au passage, on a les mêmes phénomènes en Suisse aussi.
Oui. L'université de Lausanne a été occupée pas plus tard que vendredi et les étudiants ont obtenu, comme à Sciences Po, de pouvoir ouvrir une discussion, négociation, je ne sais pas quel terme employer, sur les accords d'association avec des universités israéliennes. Je ne sais pas quel en sera le résultat, mais beaucoup d'universités suisses, comme la plupart des universités européennes, ont ce type d'accord avec des universités israéliennes et c'est en partie ça que les étudiants remettent en cause au regard du fait qu'un certain nombre nombre de ces universités israéliennes ont des laboratoires, notamment dans les départements scientifiques, qui travaillent partiellement avec l'armée israélienne ou dans des domaines de recherche qui peuvent être militarisés.
Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Alors, Étienne Gérard, sempiternelle question. Bernard dans le Tarn. Globalement, les JO coûtent-ils plus cher qu'ils ne rapportent ?
On peut dire oui, parce que, par exemple, les JO de 2024, ils coûtent de l'argent, ils coûtent 9 milliards aujourd'hui, 8,8
c'est
milliards.
Le budget de la justice.
Aux contribuables. C'est beaucoup d'argent. La difficulté, c'est que ce que ça va rapporter, c'est difficilement quantifiable. Ça va rapporter, alors en influence, on peut en discuter, on peut considérer que c'est surévalué. Ça peut rapporter en fierté nationale. Alors comment vous quantifiez la fierté des Français à avoir une superbe cérémonie d'ouverture. Et c'est une, ça peut être une fantastique opération de publicité. C'est une opération marketing pour la France, ces Jeux Olympiques. Comment vous quantifiez ça ? 9 milliards d'euros, plus ou moins ? Je ne sais pas le faire.
Fanny Guinochet, Frédéric dans le Maine-et-Loire, et les femmes de ménage dans les hôtels, les livreurs, les caissiers, les personnels de sécurité, les employés d'usines et d'armement. Il y a un risque de revendication dans le privé ?
Ah bah oui, oui, le risque il est présent et les leviers ne seront pas les mêmes et les entreprises n'ont pas toutes les moyens ou en tout cas la charge politique de dire on va négocier. Donc oui, il risque d'y avoir des mouvements, surtout qu'on est dans une période, c'est là où par rapport à d'autres Jeux Olympiques, on est dans une période où à la fois il y a eu de l'inflation, donc ces dernières années elles ont été très difficiles pour le porte-monnaie des Français, pour tenir les comptes et tous ces métiers à raison peuvent estimer qu'ils ont quand même beaucoup souffert et qu'il n'y a pas eu d'augmentation de salaire comme ils l'auraient souhaité face à l'inflation qui était présente. Puis il y a un deuxième élément aussi qu'on n'a pas évoqué mais qui rend aussi ces JO compliqués et les mouvements sociaux compliqués, c'est que ce sont aussi des JO qui se tiennent dans un contexte sécuritaire qui est très tendu. Par exemple dans la sécurité, on voit aujourd'hui la difficulté qu'a le gouvernement à trouver des gens de sécurité parce que ça va être extrêmement sécurisé. Et là, par exemple, la question des salaires, elle se pose. Pour faire venir travailler les gens, il faut que vous mettiez en face des salaires parce qu'aujourd'hui, on n'a pas assez de... Alors, France Travail, anciennement Pôle Emploi, fait des campagnes de retape. Là aussi, il y a une prime. Si jamais vous avez envie de faire de la sécurité cet été, notamment pour les étudiants, vous avez des primes. On peut se dire qu'il y a une filière qui n'est pas très bien structurée avec pas mal d'auto-entrepreneurs, mais c'est un vrai sujet.
Oui, d'ailleurs, un tout petit élément sur la question de la sécurité. Je reviens à la cérémonie d'ouverture et ensuite aux épreuves, ça va être la sécurité de la délégation israélienne. Parce qu'il faut quand même le dire, bien évidemment, ils auront leur sécurité. Il y aura des athlètes palestiniens. Vous savez que le CIO a décidé que même s'ils ne se qualifient pas au regard des critères, ils seront invités. Ils bénéficieront au fond d'une invitation du Comité international olympique. Mais on ne peut pas s'empêcher de se poser de vraies questions parce que les athlètes israéliens représentent aujourd'hui leur pays, et c'est bien normal, dans un contexte où Israël est isolé et en tout cas où toute une partie de l'opinion publique mondiale, notamment dans la jeunesse, l'accuse de commettre aujourd'hui un massacre.
Sophie Fay, question qui a trait à l'accord de cessation anticipée d'activité à la SNCF. Le PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, risque-t-il d'être sanctionné pour avoir accepté les revendications des syndicats des cheminots, d'autant qu'il est en fin de mandat et qu'il souhaitait être renouvelé, hein.
Son mandat, en fait, s'est terminé au 31 décembre et il se poursuit jusqu'à l'arrêté des comptes du dernier exercice. Il vient d'être renouvelé. En tout cas, on a proposé au conseil d'administration qu'il soit renouvelé pour 2 ans comme administrateur. Donc, le 13 mai, on saura s'il est renouvelé pour 2 ans comme administrateur et comme PDG. Mais la petite musique, c'est que peut-être après les Jeux Olympiques, il pourrait partir. Mais il faut savoir que Jean-Pierre Farandou, il ne les fait pas, mais il a 66 ans et qu'il est de toute façon atteint par la limite d'âge à 68 ans. Donc il est en fin de mandat.
Mais il pourrait payer les frais de cet accord qui, on l'a vu, en tous les cas, a agacé Bruno Le Maire, en tous les cas, de façade.
De quelques mois.
Les hôtels ont-ils fait le plein de réservations pour la période des JO ou reste-t-il encore beaucoup de chambres vides ? Étienne Gérard, on a vu quelques hôteliers gourmands par moment. Ouais. Est-ce qu'ils ont réussi à vendre au prix fort ?
Je ne vais pas tous les jours sur les sites pour regarder s'il reste des places. Aux dernières nouvelles, il reste encore quelques chambres. Il reste aussi quelques appartements sur des plateformes qui s'en occupent à des prix extrêmement chers. puisque à l'Express, on s'est intéressé à la question, on a fait un article cette semaine. En ce moment, c'est 200 à 300 euros la nuit que se négocie ou la chambre d'hôtel ou l'appartement à Paris ou dans la petite couronne pour venir sur les dates des Jeux Olympiques. Donc c'est quand même un sacré budget.
Eh bien voilà, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission qui touche à sa fin. Alors vous restez sur France 5. Je rappelle que C'est dans l'air est disponible gratuitement en podcast audio sur toutes les bonnes plateformes. Lundi, vous retrouverez Caroline Roux. Bonne soirée sur France 5.
Vous venez d'écouter C'est dans l'air, c'est un podcast France Télévisions. N'hésitez pas à vous abonner. C'est dans l'air est disponible gratuitement sur toutes les plateformes audio. En vidéo, disponible sur francetv.fr. À très bientôt.